Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. J'avais pu le faire, je me serais recouverte comme peau d'âne. Il lui fait, c'est ridicule. Elle lui dit, non, je suis comme elle. Il lui dit, peau d'âne était une idiote. Elle aurait pu tout avoir, elle a tout quitté. Elle lui fait, mais à quel prix? Et puis, je ne peux plus discuter avec vous. Je suis heureuse ici. Et je veux vivre. Laissez-moi en paix. Il lui dit, c'est impossible. Je suis vieux. J'ai besoin de toi. De ton amour. Je t'aime. Elle lui dit, alors, puisque vous m'aimez, vous devez vouloir que je sois heureuse et m'aimer comme un père.
et lui dit, depuis Melzar, on connaît la chanson. Toi, tu veux être heureuse ici, dans ce décor qui risque de s'effondrer, de tomber en poussière. Mais, ma pauvre petite, ton bonheur, ce n'est que du vent, comme cette maison. Ce que tu aimes, ce n'est que de l'illusion, rien, un rêve. Même le jeune homme que tu aimes, ce n'est rien qu'un rêve. Et lui demande inquiète, qui t'a parlé de ce jeune homme? Il lui dit, un jeune garçon qui court dans les forêts, à moitié nu. Ça se remarque. Vous, les amoureux, vous êtes aveugles et vous ne voyez pas que le monde qui vous entoure vous voit. Cet endroit où vous vivez est un décor de théâtre. Il attire le public par sa lumière. Et vous avez des milliers de personnes qui vous regardent. Vous êtes comme au théâtre. Elle regarde autour d'elle et dit, c'est horrible. Il lui répond, non, mais la représentation est finie. La lumière ne va pas être aussi forte. La nuit va être de plus en plus longue. Le froid arrive. Le décor va devenir moins beau. Sera plus menaçant. Il y aura des ombres, des bruits. Il y aura de moins en moins à manger. Le froid va venir. Le décor va changer. Et la pièce risque de devenir moins bonne. Elle lui dit, ça n'a pas d'importance. Je suis heureuse ici avec lui. Et même si la lumière est moins forte, je m'en fiche. Il lui dit, il faut partir d'ici et rentrer. Elle lui fait, j'aime. Chez vous, il n'y a jamais de lumière. Et d'ailleurs, vous chassez le public. Il lui dit, cela suffit. Il risque de revenir. Elle lui dit, eh bien, qu'il revienne, il connaîtra la personne répugnante que vous êtes. Il l'a giflé et lui dit, je défends de me parler comme ça. Tu ne viens pas avec moi? Je le dénonce aux autorités, ton ami. Ils viendront le prendre. Et si vous enfuyez, ils vous rattraperont. C'est un criminel. On le recherche pour le mener à l'incinération. Oh non! Il lui dit, tu viens avec moi, je ne dis rien. Et la police ne saura rien. Il pourra même rester ici. Mais viens avec moi. Autrement, je le dénonce. Elle lui fait, viens, je vous suis. Mais mon corps reste ici. Il lui dit, de l'illusion. Tu as aimé du vent. Sais-tu qui il est? Elle lui dit, oui. Celui que j'aime. Il lui dit, et ça te suffit? Oui, mais je sais que celui que je déteste, qui il est? Il lui dit, je le sais, mais moi, je connais celle que j'aime. Allez, viens. Elle s'approche de lui. Il lui met sa capeline et ils sortent. Elle se retourne pour voir la maison et lui dit « Ce n'est qu'illusion. Viens, je te pardonne. Je t'aime. Tu es à moi. Viens. » Il s'éloigne et s'enfonce dans la forêt. Une heure plus tard, François revient de sa pêche et tout heureux, heureux comme un gosse. À moitié nu, mouillé, illuminé par le soleil. Il porta la main de canne à pêche, faite avec une tige d'arbre et un petit panier en osier. Le sourire aux lèvres, les dents éclatantes, il ressemble à un enfant, un bel enfant d'un peintre de la Renaissance italienne, mais mince et délicat. Arrivé vers la maison, il crie. Mélusine, Mélusine. Pas de réponse. Mélusine. Pas de réponse. Il entre dans la maison. Mélusine. Rien. La table est à moitié. Desservi, il se dit qu'elle est peut-être en haut. Pose sa canne à pêche contre le mur et son panier sur la table. Monte à l'étage par les escaliers de bois usés. Mélusine. Mélusine. Rien. Arrivée à la chambre du haut, elle est vide. Le lit est fait, tout est en ordre. Il voit un oiseau sur le rebord de la fenêtre. Il se dit qu'elle a peut-être pu aller chercher quelque chose. Alors il redescend. S'assoit sur une chaise et attend. Une heure plus tard, il attend encore. Il se demande où il a pu aller. Puis, il se dit qu'elle a dû prendre la barque. Sort de la maison. Elle est toujours accrochée à la berge. Donc, elle n'a pas pris la barque. Peut-être a marché. Mais où est-elle? Il la cherche autour de la maison. Va un peu plus loin. Commence à s'inquiéter. La nuit commence à tomber. Il se demande où elle a dû aller, prend peur. Et s'il lui est arrivé quelque chose, que faire? Il retourne à la nuit dans la chambre. Puis, retourne la chercher. Le lendemain matin, il décide, c'est de prendre la barque et de faire le tour du lac. Il ne voit rien. Il commence à s'inquiéter et se dit qu'il a dû aller au village. N'est jamais allé parce que c'est dangereux pour lui. Mais là, c'est elle qui est peut-être en danger. Alors, il décide d'y aller malgré sa tenue. Il sait à peu près où c'est. Il prend la barque et il va. Il va sur l'autre rive. Il se dit que peut-être, si elle a un accident, elle a dû aller au village. Arrivé à l'autre rive, il accroche sa barque à un piquet et se met en route. Tout d'un coup, il voit la Pélagie et lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Il lui dit « Je cherche Mélusine, elle a disparu depuis hier matin. Je suis allé à la pêche et je ne l'ai plus revue. » Et il dit « Je le sais, j'allais justement te voir. Vous avez des nouvelles ?» Elle lui répond, allons nous asseoir un moment. Elle le mène s'asseoir sur un tronc d'arbre, puis s'asseoir à côté de lui. Elle lui dit, je l'ai vu, il est venu la chercher. Qui? Elle lui dit, celui à qui elle appartient, son père. Son père? Eh oui, mon petit. Mais pourquoi? Elle lui dit, parce que son père la veut, elle est à lui, il en a fait sa compagne. François lui crie, il n'en a pas le droit. Elle lui dit, c'est sa femme qui lui a dit de le faire. Il lui dit, dégoûtant, et elle, elle est d'accord? Non, puisqu'elle s'est enfuie de chez son père pour aller vivre là-bas. Elle a les larmes aux yeux, envie de pleurer. Et dit, je vais aller la chercher. Elle lui dit, il t'en empêchera. Il lui demande, où est-il? Qui est-il? Elle lui dit, c'est le propriétaire du château qui est en bas, du côté du village, à l'autre bout versant, le comte de la pêcherie. Et il dit, je vais aller la voir, je vais aller le voir. Elle lui dit, fais attention, c'est dangereux. Et il te fera prendre par la police. Il lui dit, et il marche dans la forêt pendant des heures, ni la faim, ni la soif. Le fait s'arrêter. Au bout d'un moment, il voit un village, un petit village, avec quelques maisons, une église. Dans le creux d'une vallée, en face se trouve, sur l'autre versant de la montagne, un château, un vrai château. Un château
qui ressemble à un château du Moyen-Âge, mais en pierre dorée. Il décide c'est de contourner le village et de le monter pour ne pas être vu et d'aller à ce château. C'est ce qu'il fait. Marche dans les ruisseaux, broussailles, arbres, racines d'arbres. C'est en pente raide, il y a des rochers. Il est un peu comme le prince de la Belle au bois dormant qui va délivrer sa belle. Il est griffé, brûlé, essoufflé, écorché, mais rien ne l'arrête. C'est très pénible. Enfin, il arrive sur le plateau où se trouve ce lugubre château. Le lac et sa maison, c'est la lumière. Le château, c'est la nuit, l'enfer. La plateforme est sablée. On y arrive normalement. On suit une petite route. Lui contourne la route. Puis se trouve devant l'entrée du château. Il rentre dans la cour, grande cour pavée, avec une porte au centre. Le château est une grande bâtisse dorée, de 3 étages, avec de chaque côté une tour. Il y a du lierre qui monte au mur. C'est moins lugubre de le voir de près que de loin. François s'approche, va vers l'entrée du château. Il sonne à la porte. La porte s'ouvre. C'est un domestique habillé en garde-chasse et les grands maigres cheveux blancs. Où désirez, monsieur? François lui dit: j'aimerais parler à monsieur le comte. L'homme le regarde dédaigneusement. Il voit un jeune homme charmant, mignon, mais malgré tout, à moitié nu, des griffures de partout, des cheveux en broussailles. Et des inadmissibles pieds nus. Il dit: je ne crois pas que monsieur le comte veuille vous recevoir. François lui dit: eh bien, il le faudra bien. Vous êtes qui? François Ducourt. Je ne vois pas. François énervé lui dit: eh bien, vous verrez. Il pousse l'homme et entre. Le domestique lui dit: mais monsieur, je ne peux pas vous recevoir, c'est impossible. François ne répond pas. Et dans un hall d'entrée, avec des escaliers de pierre, se dirige vers les escaliers. Monsieur, laissez Martin. François lève la tête et voit un homme grand, mince, cheveux blancs, porte un costume noir. L'homme lui dit: montez, jeune homme. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis celui que vous cherchez. Montez. Il va vers l'homme. L'homme le prend par le bras. Et le fait entrer dans un salon Louis XV. Il lui dit,
vous êtes le jeune homme?
La sœur lui dit, oui, et je suis venu la chercher. Le père lui dit,
c'est impossible.
Pourquoi?
Parce qu'elle n'est plus.
François devient tout blanc. Le comte lui dit,
elle a préféré mourir que de vivre avec moi. Elle s'est suicidée en prenant des cachets cette nuit. Nous n'avons pu rien faire.
François furieux lui crie, c'est de votre faute. C'est vous qui l'avez tué. Je vous déteste. Et je vous dénoncerai. Je sais tout.
Le comte lui dit, non. C'est vous qui l'avez tué. En le faisant croire à des illusions.
François furieux lui dit, mon amour pour elle n'était pas une illusion. Et le vôtre est un crime. Elle s'est tuée pour vous échapper et échapper à cette infamie.
Le comte lui dit, vous parlez. Vous ne pouvez me juger. Vous ne connaissez rien à notre histoire. C'est sa mère qui a voulu que l'on s'unisse.
Une horreur.
Une horreur? Pourquoi? Je me suis marié. Elle m'appelait père parce que je suis plus vieux qu'elle. Et puis je la traitais comme un bon père. Mais malheureusement, elle avait la fougue de la jeunesse et a voulu fuir ma vieillesse qui lui faisait horreur. Pour elle, je représentais la mort. Vous voyez bien que je ne suis pas coupable. Bien au contraire, ni aux yeux des hommes, ni de Dieu. Mais vous, oui. Oui. J'avais vécu une illusion dans un décor fictice. Vous avez aimé un rêve, vécu un rêve. J'aime vous, j'en veux pas. Parce que vous avez eu la plus belle part de la personne que j'aime. Et puis cette histoire ne pouvait durer que le temps d'un été. Petit à petit, tout allait s'effriter et disparaître.
François, les larmes aux yeux, lui dit, sauf l'amour que j'ai pour elle.
Le comte lui dit, je suis navré.
Puis-je la voir?
Le comte lui dit, non, il vaut mieux pas. Gardez-la dans votre cœur. C'est pour votre bien que je le dis. Maintenant, partez. Partez. Sortez de la maison. Retournez là-bas. La police ne sait pas où vous êtes, mais elle doit vous rechercher.
François sort du salon. La tête vide. Ne sachant que faire. Il descend les escaliers. Un domestique lui ouvre la porte et il sort.
Dehors, le soleil éblouit. Thank you.
Le soleil éblouit. Santé de soleil qui brille alors qu'il devrait faire sombre, 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 comme le corps de François. Il s'enfonce dans la forêt pour s'en retourner. Il le fait machinalement. Il se fait pincer, griffer, mais ne sent rien. Arrivé vers le lac, il prend la barque pour retourner à la maison. Il arrive à la maison en fin de journée. Le jour commence à tomber. Là, il voit la maison délabrée, triste, laide. Ne lui voit plus de charme. Il se demande comment ils ont fait pour vivre dans ce temps de ruines. Lorsqu'il rentre dans la maison, le cafard lui vient. Tout à coup, la douleur de la perte de son ami lui vient. Il se met à pleurer. La revoit aller, venir, marcher dans cette maison. La voit rire. Il voit le lit. Le lit de camp, où ils ont eu du plaisir, se dit que plus jamais cette peau. Cette paix reviendra. Pourtant, il sent encore en lui la présence de son corps. Sa peau même la ressent. Ça lui fait mal de se dire que ce corps, c'est fini, fini. Le mot fini ne voulait rien dire pour le moment, mais il signifie la fin de non-retour. Elle n'est plus, et ce qu'il a aimé le plus au monde va être détruit à jamais. Pourquoi est-ce que l'homme doit aimer la chose la plus fragile qui soit, c'est-à-dire un être humain? Pourquoi doit-il aimer ce qui est le plus éphémère, cette chose si belle, si douce, se change, transforme en autre chose et meurt? Vous vous mariez avec une belle jeune femme, quelque temps après, ce n'est plus la même personne, tant elle a changé. Et si cette personne meurt avant de se transformer, c'est plus parce que vous n'êtes pas habitué à son départ, à l'effet de la transformation due au vieillissement. François se dit que la vie est horrible, que c'est un crime que de donner la vie, parce que l'on donne en même temps la mort. Il fait le tour de la maison. L'homme en peine. En voyant les affaires, les vêtements de la jeune fille qu'elle a touché, mise. Qui a touché, mise il y a peu de temps. Et peut-être quelques heures avant sa mort. Ça lui paraît difficile à se l'imaginer et se dire qu'elle est morte. Alors, il décide, c'est de quitter tout ça. Il ne peut vivre au milieu de ce qui n'est plus. Il partira tout droit devant lui, demain matin. Il va se coucher. Mais l'odeur de la couverture lui donne l'odeur de son ami. Elle vit encore par l'extraordinaire odeur de son odeur. Il se dit qu'il aimerait garder cette odeur toujours, car c'est la seule chose qui reste d'elle. Cette odeur qu'elle a imprégnée alors qu'il faisait l'amour. Et se dit que lui a dû mélanger son odeur à la sienne. Leur amour, pleine d'amour, leur plaisir reste encore. Il s'endort, enivré par cette odeur. Et même, ça le fait bander, malgré lui, dans son sommeil. Il se masturbe à cause de l'odeur. Parce qu'il est enivré, comme si elle était là, près de lui. Il se réveille, épuisé. Tout lui revient, se lève, cherche quelque chose à manger, il trouve des fruits du jardin. Après avoir mangé, il décide de partir. Mais avant de partir, il se dit qu'il doit prendre la couverture. Il la roule, l'attache avec une ficelle et la porte sur son dos. Puis sort. Il marche en suivant le lac et s'enfonce dans la forêt. Arrivé à la lisière de la forêt, il prend un chemin et se met en route. Marche pendant des heures, la tête vide. Ne rencontre personne. Il fait encore trop tôt. Il a toujours la couverture sur son dos. À moitié nu, griffé, les yeux boursouflés parce qu'il a pleuré, les cheveux en bataille. Malgré tout ça, il est très beau. ne sait pas ce qu'il va, ni ce qu'il va faire. Il se dit que depuis Lyon, il n'a fait que des va-et-vient avec la fortune. Il faut qu'il réfléchisse avant de faire quoi que ce soit. Le jour se lève, il fait chaud. La couverture le réchauffe le cou. Il se dit qu'il ne peut pas la garder. Il aura trop chaud et puis ça peut le gêner. Alors, il enlève, il la laisse à terre. Ça lui fait de la peine de ne pas faire autrement. Continue sa route, sa vie. Continue à marcher. Le premier jour, il n'a vu personne. Il a mangé des raisins, des pommes, couché à la belle étoile malgré la fraîcheur de la nuit. C'est dur de trouver le sommeil lorsque l'on a froid et les pensées tristes. Arrive à s'endormir, en se réveillant, il est paralysé de froid. Et la nuit, il a passé à Mélusine. Il se sent gelé. Le jour est à peine levé. C'est tout mouillé et brumeux. Il se lève. Les membres raides et froids, lui aussi mouillé, se frictionne, fait des mouvements pour se réchauffer, puis se met en route tristement. Marche sur un chemin qui longe des champs, cherche à se nourrir. Lorsqu'il voit un arbre fruitier, il va voir s'il n'y a rien à prendre. Trouver quelques pommes acides. En fin de matinée, il se trouve sur une petite route. Lorsqu'il entend derrière lui une voiture, il se retourne et décide de faire du stop. Il lui fait signe à la voiture pour qu'elle s'arrête. C'est un homme gros avec des cheveux rares blonds. Il porte un costume froissé beige.
Tu veux aller où ?
François lui dit, le plus loin possible. J'aimerais changer cette coin.
Bien, monte. Je vais du côté d'Orléans. Ça te va ?
Oui. Et François s'assoit à côté du chauffeur. Le chauffeur met sa voiture en route. L'homme, en conduisant, jette un coup d'œil sur lui. Lui demande,
un beau gosse comme toi, tu n'as pas peur de faire du stop habillé comme tu l'es?
François lui dit, non, et puis j'aime défendre, ça ne me gêne pas qu'on me regarde, mais c'est tout. Si tu veux plus, il faut demander.
Lui dit, en tout cas, tu n'as pas froid aux yeux?
Jamais.
Mais tu viens d'où?
Je viens du royaume des morts, il lui dit.
On pourrait le croire, comme tu es fagoté, un zombie comme toi. Mais moi, je me dis pas non.
François a faim, il demande. Tu me feras manger?
Il lui dit. D'accord. Mais moi aussi, j'ai faim.
Il met la main sur la cuisse. François lui dit. Arrête, j'ai pas la tête à ça.
L'homme sourit. À ton âge,
J'ai vécu suffisamment de choses pour qu'on me laisse un peu. » L'homme enlève sa main. « Je m'excuse. J'ai deux fils, à peu près de ton âge. » Il va arrêter sa voiture devant une auberge-restaurant. C'est une auberge pour les gens de passage. Ils entrent dans l'auberge. Les gens campagnards plouquent, avec des roues, des charrues, des rideaux carreaux rouges et blancs, des napperons aussi, des casseroles en cuivre au mur, etc. Il y a un peu de monde, des vieux, des couples avec ou sans enfants, des gens sans importance. Un serveur vient à eux. Un homme dans les 30 ans, grand, mince, blond, pantalon noir et chemise blanche. Le chauffeur lui dit « Une table pour deux !» Et le serveur les mène à une table et leur donne le menu. Une demi-heure plus tard, ils mangent. Fricassée de pommes de terre. François mange de bon appétit. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. C'est l'homme qui paye. Puis, ils sont repartis. L'homme lui raconte sa vie, sa famille, et lui dit « Je peux pas m'empêcher de me payer des petits extras. Je peux me passer de ma femme pendant 6 semaines, sans que ça me gêne. Mais un mec, ça me manque beaucoup. Pourtant, j'essaye, c'est de rester fidèle à ma femme. C'est dur, très dur. Je collectionne des photos de jeunes que je vois dans les magazines. Il y en a un que chaque fois que je vois sa photo, je ne peux m'empêcher de la prendre. C'est celle de Gilbert Franblanc. Quelle beauté, quel visage. J'en suis dingue. Dingue d'une image peut-être. Mais que je verrai sûrement jamais, et si je le vois, je serai sûrement déçu, parce qu'il n'est peut-être pas aussi bien que ça dans la vie réelle. Et puis, quoi lui dire? Terrible d'être amoureux d'une image, parce que le modèle lui vieillit. Ils sont arrivés vers Orléans. François lui demande de le laisser à la sortie de la ville. Il ne peut pas rentrer à la ville habillé comme il est. Le chauffeur lui a dit « Au revoir, belle image !» Et il l'a quitté. C'est la fin de la journée, il va coucher dans les champs. Il est satisfait de s'être éloigné du drame. Et puis la personne ne sait qui il est. Sa vie errante continue. Il marche, fait du stop, se fait payer à manger lorsqu'il peut, mais à rien d'autre. vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.